J'étais encouragé particulièrement la vie et la présence des chrétiens au Moyen-Orient, où ils doivent pouvoir vivre librement leur foi et lancer une nouvelle fois un appel pressant à la paix dans la région.
Cet appel à la paix au Moyen-Orient, le pape l'a lancé alors qu'il recevait lundi les 6 cardinaux créés lors du consistoire qui s'est tenu le week-end dernier. Benoît XVI s'adressait à l'un d'entre eux en particulier, il s'agit du cardinal maronite libanais Béchar Arraï. On l'écoute.
C'est vraiment une feuille de route. Chaque fois que nous l'écoutons, il nous donne encore du courage et de n'avoir pas peur devant les défis et les difficultés. Oui, nous vivons des moments très critiques, la guerre, le terrorisme, les divisions politiques. Nous sommes préoccupés pour la Persane, nous sommes préoccupés pour la Syrie, pour l'Irak, pour l'Égypte, pour le Liban, parce que c'est la montée, malheureusement, du radicalisme maintenant. Nous avons un grand message évangélique à donner en face de l'antichrisme et du frontalisme qui est en train de monter et d'être soutenu un peu de partout.
La Palestine est devenue officiellement jeudi membre observateur des Nations Unies. Une victoire pour les Palestiniens qui obtiennent ainsi un début de reconnaissance internationale malgré la réserve des États-Unis et d'Israël et malgré l'abstention d'une quarantaine d'États. Aussitôt après l'annonce du résultat du vote, les Palestiniens ont célébré ce qu'ils attendaient depuis plusieurs semaines. Monseigneur Fouad Toile, patriarche latin de Jérusalem, partage la joie du peuple.
J'attends que les longs chemins soient plus courts. Nous avons déjà parcouru pas mal de chemins pour arriver à ce point. Et il y aura un autre jour un peu plus de confiance réciproque, un peu plus de calme. Et il y aura un autre État à côté de l'État d'Israël, des bons voisins qui vivent un bon voisinage au lieu de vivre
En Égypte, la commission constituante boycottée par les libéraux a adopté la référence au principe de la charia pour la future constitution qui sera soumise à référendum dans 2 semaines. Un nouveau coup de force du président Mohamed Morsi que décrypte pour nous le père Camille William, un copte catholique de la commission Justice et Paix.
C'est une stratégie d'islamisation. Il réclame l'immunité de toutes ses décisions, l'immunité contre les tribunaux de la commission constitutionnelle et l'immunité pour la deuxième branche du Parlement. Il veut garder cette majorité islamiste parce qu'il n'est pas sûr du pourcentage des islamistes qui seront dans le nouveau Parlement. Et alors pour cela, il consacre tous les moyens pour arriver à cette constitution théocratique. Si on arrive à avoir une constitution islamiste, ça durera peu, parce que maintenant, tous sont conscients de ce droit, soit chrétiens que musulmans.
En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se seraient retirés de Goma en échange de l'ouverture de négociations avec le président Joseph Kabila. Mais que veulent vraiment ces militaires mutins? Michel Roy, président de la Caritas Internationalis, revient de RDC.
Le projet du M23 n'est pas très clair. Derrière lui, de Rwanda, est-ce qu'ils veulent, comme ils le disent, aller jusqu'à Kinshasa pour renverser Kabila et installer Mekwa? Ou bien occuper un espace qui serait les deux Kivu et s'installer définitivement là.
Ils l'ont dit, ils veulent le départ du président Kabila.
Oui, mais tout ça, c'est une mascarade. Dans l'appel des évêques d'Afrique, il est clairement dit, non pas seulement les miliciens, les acteurs du M23, mais leurs commanditaires, ceux qui planifient, doivent être visés et doivent arrêter. C'est clairement le pouvoir rwandais et le pouvoir ougandais. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Tout ce qui quitte le Kivu passe par le Rwanda ou l'Ouganda pour sortir. Et on voit dans les budgets du Rwanda ou de l'Ouganda les ressources que représentent ces matières premières qui ne sont pas les leurs.
Why poverty? Pourquoi la pauvreté? Le thème d'une initiative qui s'est tenue ce jeudi. Béatrice et Loïc ont passé, grâce à la Fidesco, 2 années dans la favela des Alagados à Salvador de Bahia au Brésil. Témoignage.
Je me suis rendu compte que le pire n'était pas la pauvreté matérielle dans laquelle ils vivaient, même si elle était bien présente. Hein. Ils vivaient dans des maisons de tôle, de bois, vraiment sales, il y avait des rats, etc. Pas toujours de quoi manger. Le pire, la plus grande misère qui nous a marqué, c'est vraiment la misère humaine, sociale, surtout sur le plan familial. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de modèle familial. On a très peu, à part en dehors des catholiques, on a très peu rencontré de maisons où il y avait un père, une mère et des enfants.
C'était assez frappant de voir les enfants qui avaient père et mère. Et 100 fois plus structurés que ceux qui n'avaient que leur mère, avec leurs frères et sœurs de pères différents. C'était hallucinant comme c'était frappant.
Une situation en contraste avec celle vécue par le père Daniel Godefroy, fils de la charité, dans les bidonvilles de Manille.
Il faut accepter de ne pas se plaindre à cause du bruit, à cause de la difficulté des transports, à cause de l'inconfort, à cause de Il y a une multitude de choses qui fait qu'on pourrait être déprimé. Mais acceptant de le vivre, à ce moment-là, notre regard devient un regard positif avec les gens. On se dit, mais cette famille-là qui vit dans des conditions vraiment épouvantables, vivent des choses qui sont très belles. Ils n'ont pas perdu la foi, ils n'ont pas perdu l'espérance. Et ils sont capables de s'entraider entre voisins quand il y a des difficultés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens ne sont pas dans le désespoir, même s'ils sont dans la pauvreté. Ils sont pauvres, ils sont plus pauvres qu'en Europe, mais ils restent ensemble et ils cherchent des moyens pour sortir de la pauvreté.